L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Je m'appelle Chloé Imposta, moi je suis née à Saint-Étienne-des-Grogas, je suis ici du milieu agricole, donc mon père était maraîcher sur les terres que j'exploite aujourd'hui. Ensuite j'ai fait des études agricoles parce que c'est un sujet qui m'intéressait, donc j'ai un diplôme d'ingénieur. Et après avoir travaillé dans les Pyrénées-Orientales, j'ai décidé de m'installer. Donc je me suis installée en 2020, en février 2020, donc directement en agriculture biologique. Dès le début, j'ai décidé d'avoir des poules pondeuses, de planter des arbres et de faire du maraîchage.
Tout de suite, la première installation, ce n'est pas une reconversion agricole. Ces terres étaient comment ?
Les terres étaient déjà certifiées en bio. Donc du coup, je n'ai pas eu de reconversion. Directement, j'ai pu cultiver en bio.
Donc votre père ou votre famille, ceux qui avaient des terres en tout cas, ici, étaient déjà bio. C'est étonnant pour la génération d'avant, j'allais dire.
Et mon père était maraîcher et il s'était installé en 1998. Et il était en bio aussi. Donc moi, je suis née dans le bio.
Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite.
C'est ça. Après, à Perpignan, j'ai travaillé dans l'agriculture conventionnelle. Je gérais une exploitation de 15 hectares d'artichauts en conventionnel. Par conviction, je souhaitais revenir au bio, déjà pour ma propre santé, parce que utiliser des produits phytosanitaires, je ne voulais pas pour moi. Et ensuite, pour les consommateurs qui allaient manger ma production.
D'accord. Donc, le bio, c'est... Par rapport à la santé, uniquement ?
À la santé humaine, dans un premier temps pour moi et pour les consommateurs, et également pour l'environnement. C'est une logique qui fait que je ne pollue pas le milieu, je favorise la biodiversité. Voilà. Je travaille beaucoup sur la vie du sol, donc je n'utilise pas d'engrais chimiques. Voilà, c'est toute une logique qui suit le bio.
C'est cette expérience dans les Pyrénées-Orientales avec des artichauts en conventionnel qui vous avait fait basculer. Mais vous n'étiez pas loin quand même, vous étiez au bord du précipice déjà.
J'étais pas loin, j'ai voulu aller voir ce qui se passait ailleurs pour vérifier ce qu'on m'avait inculqué. Et voilà, et j'y suis revenu.
Une bonne éducation agricole.
Quoi. c'est ça.
Combien d'hectares, sur combien de...
J'ai 1,5 hectare en maraîchage. Alors, la philosophie de l'exploitation, entre guillemets, dès que j'ai commencé, c'est de travailler en verger maraîcher. Donc du coup, j'ai des haies fruitières tous les 12 mètres qui servent pour différentes raisons. Tout d'abord, j'avais peur du changement climatique et je voulais anticiper. Donc je voulais créer des haies fruitières pour créer de l'ombre. Ensuite, pour favoriser la biodiversité, étant donné que j'étais en bio. Et je trouve que c'est complémentaire avec le maraîchage. Donc le feuillage qui tombe à l'automne, ça permet d'apporter de la matière organique. Voilà. J'ai essayé de faire un système assez cohérent. Avec les poules pondeuses également, je récupère le fumier. D'essayer d'être autonome de ce que je pouvais, en tout cas. Et de créer un système qui se suffit à lui-même.
Vous l'aimez cette terre ? Il faut l'aimer pour la soigner comme il faut.
Il faut l'aimer, il faut surtout aimer les plantes. Quand on fait quelque chose, quand on plante sans amour, ça pousse pas, ça c'est certain. Et quand on me dit « Ah, pourquoi les salades elles sont si grosses ?» je réponds aux clients que c'est parce que je les ai plantées avec beaucoup d'amour. Donc je soigne la terre, j'apporte beaucoup de compost. Depuis le début, j'ai voulu augmenter le taux de matière organique dans l'esprit d'avoir une terre plus riche et également qui retienne davantage l'eau. Donc les terres qui ont plus de matière organique retiennent davantage l'eau, donc j'ai voulu travailler là-dedans, également dans l'idée du changement climatique et du manque d'eau. Donc ces dernières années, j'ai beaucoup soigné ma terre en apportant du compost et du fumier, et j'essaye de limiter le travail du sol. Alors je travaille quand même le sol, mais je limite beaucoup. Donc, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup de bâches plastiques. Donc soit des bâches d'ensilage pour occulter, qui me permet d'éviter des désherbages, parce qu'une fois que j'enlève la bâche, toutes les plantes dessous sont mortes, et ça fait comme un faux semis, je peux semer directement. Soit en plantant à travers des toiles tissées, Donc oui, c'est du plastique, c'est pas terrible, mais ça permet quand même d'économiser beaucoup d'eau et d'économiser du temps de travail et du temps de travail du désherbage. Et également de travailler le sol, donc je soigne mon sol sans le travailler. Pas de labour profond, et après je fais un peu de griffes et un peu de rotovator avant le semis. Mais par contre, il y a des endroits, selon ma rotation, où je n'ai pas travaillé le sol pendant un an et demi, où je suis arrivé entre le bâchage et à jongler comme ça. Donc j'en fais, mais j'essaye le minimum.
Et quand vous faites du labour, c'est mécanique ?
C'est mécanique, oui.
Avec un tracteur ?
Oui, c'est avec un tracteur.
D'accord. Alors cette terre, on la nourrit, on l'aime, elle est en bonne santé, et dedans on va y planter des choses. Il faut aussi que ce qu'on y plante, ce soit déjà sain. Donc vous faites vos semis, vous achetez des plants que vous...
Alors je fais les deux, je fais mes semis et j'achète des plants. J'ai pas voulu dès le début faire tous mes semis, parce que c'était une grosse prise de risque. Si j'y arrivais pas, je me retrouvais sans production. Mais petit à petit, j'essaye d'en faire de plus en plus. Donc depuis le début, je fais tous les curcumbitacées, je fais poireaux-oignons. Et là, cette année, je me suis équipée avec des tables de semis. Donc j'ai essayé de faire de la salade, des blettes, épinards. J'ai diversifié mes semis, mes tomates. Voilà. Petit à petit, j'espère y arriver.
Alors, un légume en bonne santé, normalement, il n'est pas malade, mais ça peut quand même arriver. Alors, pour les humains, il y a la prévention et puis il y a le curatif. En maraîchage, c'est un peu pareil.
En bio, on n'a pas beaucoup de curatifs. Il faut beaucoup de préventifs. Qu'est-ce que je fais ? Je fais à la fois des purins, purins d'ortie, de prêle, qu'on soude. J'utilise pas mal de purins et beaucoup d'argile aussi, qui permet d'avoir une action curative. Et ensuite, j'utilise également un peu de cuivre et de soufre. J'alterne pour limiter la dose de cuivre, j'alterne purin, cuivre, voilà.
Avec la certification AB, vous avez une limite maximale de cuivre à utiliser ?
On a une limite maximale et c'est aussi par... ça pollue les sols, il ne faut pas trop en utiliser, donc... Et également, économiquement, le cuivre, je l'achète, le purin, je le fais. Donc j'ai tout intérêt à faire mes potions.
Alors, on dit que les hommes sont de plus en plus en mauvaise santé parce qu'ils mangent mal, parce que l'environnement dans lequel ils vivent est malsain. C'est vrai aussi pour le maraîchage et l'agriculture. Vivre un sol sain, des plants sains, ça donne des fruits qui font du bien quand on les consomme. C'est vertueux tout ça, quoi.
Tout ça, c'est vertueux et les légumes, des légumes sains favorisent la bonne santé des humains, manger équilibré aussi, être dans un environnement qui est également sain, tout est lié.
Ces légumes, au moment donné, il faut les vendre parce que vous ne pouvez pas tous les manger. Alors, comment vous faites ?
Alors, j'ai différents circuits de vente. La plupart, je le vends en direct sur les marchés. Donc je vends au marché de l'Audève le samedi matin et je vends sur l'exploitation le lundi soir. Donc ça, c'est les deux points de vente type marché. Et ensuite, je commercialise des épiceries de village, restaurants, cantines scolaires, notamment le lycée de Clermont. Tout ça sous le label bio. Et je fais également un peu de panier.
Est-ce que la période de Covid a retissé des liens avec vos propres clients ?
Alors moi j'ai attaqué au début du Covid, j'ai commencé à vendre en avril 2020, donc j'ai commencé vraiment pendant la période Covid. J'ai eu beaucoup de clients du coup nouveaux, mais c'était les premiers, qui après par contre ont arrêté d'être clients. Je pense qu'il y a eu une peur du Covid qu'on fait qu'ils se sont tournés vers l'agriculture locale. Et une fois que la peur est partie, ils ont repris leurs habitudes, les mauvaises habitudes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, pour moi, c'est les grandes surfaces, c'est l'agriculture qui n'est pas locale.
Et pour rehausser le rigueur biologique, la balle est un peu dans le camp des consommateurs, c'est un peu ce que vous dites. C'est eux qui ont le porte-monnaie à la main.
Alors, on tire souvent sur les agriculteurs. Moi, je remets toute la faute sur les consommateurs. C'est sûrement parce que je suis agricultrice. Mais pour moi, c'est le consommateur qui fait la demande et c'est l'agriculteur qui s'adapte à la demande. Donc si le consommateur ne change pas ses habitudes, les agriculteurs ne peuvent pas changer leur manière de produire. Donc je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Et les consommateurs devraient, C'est pas qu'il devrait, je pense que c'est une prise de conscience de tout ce que nous, les agriculteurs, on fait, notamment l'agriculture locale. C'est très important pour éviter le transport, pour l'économie locale également. Et le bio, c'est également un plus qu'il ne faut pas oublier.
Est-ce que c'est simplement un problème économique qui fait que les gens vont dans les supermarchés ou...
Pas du tout, je pense pas que c'est un problème économique parce que aujourd'hui les prix du supermarché restent assez élevés. Enfin, si on compare du bio que moi je commercialise et du bio de supermarché, je suis moins cher que du bio de supermarché. Après, sur des produits, par exemple de la courgette conventionnelle qu'on trouvera au supermarché, j'ai des prix supérieurs. Mais si on calcule la qualité nutritive que va apporter une courgette que moi je produis et une courgette qui vient d'Espagne ou du Maroc, ramenée au prix, ma courgette sera meilleure en termes de rapport qualité-prix.
Ça veut dire que pour les consommateurs, il faudrait regarder non pas seulement le prix, mais le rapport qualité-prix, comme je l'ai dit.
Exactement. Mais pour ça, il faut avoir une idée et une conscience de la qualité des produits, la qualité du goût aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est les légumes qui ont vraiment du goût. C'est une éducation à avoir dès le plus jeune âge, je pense.
Alors, on n'a pas parlé des produits que vous faites. Alors, bon, on ne va pas parler des produits ratatouille, comme tout le monde les appelle. Hein. Je crois que tout le monde fait ça. Est-ce que vous avez des produits un peu plus spécifiques ici ou plus locaux, avec des variétés plus locales?
Non, je n'ai pas cherché tellement à me diversifier, à me diversifier des autres. Vu que c'est mes premières années, j'ai voulu faire les produits qui se consommaient. Parce que les essais, ça coûte de l'énergie et ça coûte de l'argent aussi. Donc je me suis plutôt centrée sur des productions qui fonctionnent. Après, en ce moment, par exemple, j'ai beaucoup de chou-rave, qui est un légume qui est peu connu, qui est très bon pour la santé, qui est très bon gustativement, mais qui se vend peu au final. Donc voilà, je sais que l'année prochaine, il faudra que j'en plante un peu moins. Ça fait partie des choses que...
C'est l'expérience. Vous êtes une jeune agricultrice bio, finalement.
Exactement.
Autonome. Et en termes de fruits, puisque vous m'avez dit que vous aviez aussi des fruitiers.
Donc en termes de fruits, j'ai deux années de plantation. J'ai planté en 2020 pommes, poires, cerises. Et en 2021, j'ai planté abricotiers et amandiers.
Donc pas encore de récolte, je suppose.
Alors cette année, j'ai ramassé on va dire 50 kilos d'abricots. Donc, je suis ravie d'avoir mes premiers abricotiers. Certains clients ont pu les déguster. Et les pommiers sont bien chargés cette année, donc j'aurai aussi un peu de pommes.
Des légumes, des fruits et puis des poules. Pourquoi des poules pondeuses? Pourquoi des œufs?
Alors pourquoi des œufs? Pourquoi des œufs? C'est une bonne question. Moi, je trouvais que les...
Avoir... Vous auriez pu avoir des cochons, je veux dire.
Les poules, c'est plus petit, c'est plus facile à manier. Non, j'ai beaucoup de, sur l'exploitation, en fait, de terres non utilisées, des bords de parcelles. Et du coup, pour les valoriser, je voulais mettre des animaux. Donc, j'ai un système de poulailler mobile. Donc je change mes poules de parc et comme ça elles mangent l'herbe toute l'année. Elles ont de l'herbe et ça valorise les abords des parcelles. Après les œufs, ça permettait d'avoir aussi un produit carné.
Et les œufs, c'est labellisé aussi en agriculture biologique?
Ils sont également labellisés.
Pour l'anecdote, je crois que vous avez eu quelques problèmes avec les poules cette année.
Alors, pas que cette année. Ça fait plusieurs années maintenant. Petit à petit, je m'améliore. Mais j'ai eu des problèmes de rapaces dans un premier temps. Donc, j'ai eu l'autour, des palombes et le grand-duc. Et cette année, j'ai eu des renards qui m'ont mangé les poules. Donc, petit à petit, je me protège, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué.
Alors, il vous en manque, mais vous en aviez combien alors avant cette razzia?
Et j'en avais 80, et là, il en reste 40.
Alors, il faut dire qu'on est en pleine nature ici. Vous entendez d'ailleurs les cigales. On est au bout du monde, à Gourgas, un hameau qui est après Saint-Étienne de Gourgas. Ah, c'est vrai que... Quand on veut respecter la biodiversité, les renards, les rapaces en font partie aussi. Ils ont le droit aussi de vivre.
Exactement, ça fait partie du jeu. Alors pour me tranquilliser, je me dis qu'il faut donner à la nature pour que la nature me redonne. Donc c'est ma petite contribution, quelques poules par an.
Et comment vous protégez des renards?
J'ai des clôtures électriques. Voilà, c'est la seule possibilité. Après, j'ai une porte qui se ferme et qui s'ouvre la nuit, mais il y a quelques résistantes qui préfèrent dormir dehors.
n'y a pas d'agriculture sans eau. Alors, je ne sais pas comment vous faites vous, et le maraîchage en particulier a besoin d'eau, plus que d'autres plantations souvent, ou des arbres fruitiers.
Alors,
comment vous faites vous ?
Je suis au bord de la Braise, donc je suis au bord de la rivière, donc j'ai la chance d'avoir l'eau. Comment je fais ? Je bâche beaucoup mes plantations. Pour l'économiser, justement, je bâche les plantations qui permettent de limiter l'évaporation du sol. Et ensuite, je travaille beaucoup sous planche de compost. Et en fait, l'épaisseur de compost permet de faire comme un paillage et d'également limiter l'évaporation.
Et quand vous arrosez, vous goutte à goutte ou arrosage traditionnel ?
Alors, j'ai les deux. J'ai des goutte à goutte et de l'aspersion. Cette année, par exemple, j'ai des cultures qui étaient en aspersion l'année dernière que j'ai passé en goutte à goutte pour essayer de limiter la consommation. Et actuellement, je travaille avec une stagiaire sur des tests d'hygrométrie pour justement essayer de peaufiner au maximum l'irrigation et de limiter la consommation dès que possible.
Alors, on dit qu'en France, il y a une forme de gaspillage de ce qui se mange, pas que des légumes et que des fruits. Vous, si vous avez trop de... Qu'est-ce que vous en faites ? Des confitures ?
Alors, j'ai plusieurs systèmes de valorisation. Tout d'abord, quand j'ai un surplus, je le donne à une association, le Champ des Possibles, à l'ODEV, qui le redistribue à des populations qui ont besoin de légumes. Ensuite, j'ai une partie où je fais transformer en soupe, ou par exemple, j'ai des poêlés de poivrons-oignons, des soupes, j'ai des confits d'oignons. Voilà, ça permet de valoriser, surtout à l'automne, les légumes abîmés. Et jusque-là, j'ai pas plus de pertes que ça. Après, j'ai les poules qui servent de revalorisateur.
Le travail de l'agriculteur, il est souvent saisonnier. Vous, comment ça se passe ? Vous avez fait en sorte d'avoir, un, des revenus et deux, du travail toute l'année ?
Jusque-là, j'arrivais à prendre mes 5 semaines de vacances par an. C'était un objectif. Le maraîchage permet quand même d'avoir une période un peu plus creuse en hiver. Enfin, là que j'étais en période de développement, le temps de planter les arbres c'était en hiver. Cet hiver j'ai monté des serres, ça s'est fait l'hiver donc j'avais moins de temps. Après ce qu'il faut surtout c'est que le consommateur comprenne qu'on n'est pas de toute l'année et qu'il faut aussi qu'on se ménage et qu'on se repose une période.
Il y a des maraîchers bio et dans des réseaux qui font des AMAP, des paniers. Comme ça c'est un système qui vous... Que vous regardez avec sympathie ou...
Alors ou moi, c'est un système que j'aurais beaucoup aimé développer. Il y a 2 ans, je suis partie en formation pendant 1 semaine de visite de ferme. Et toutes les exploitations que j'ai visitées commercialisaient via les AMAP et réduisaient énormément leur temps de commercialisation. Et il y avait également une dynamique autour de l'exploitation qui était positive et je trouvais ça beau. Après, c'est une initiative qui doit venir aussi des consommateurs. Moi, je ne peux pas la mener en disant « je veux faire une AMAP ». Il faut qu'il y ait une volonté derrière. C'est une idée à développer qui me plaît beaucoup. Les avantages pour les agriculteurs, c'est d'être sûr d'avoir un débouché toute une période de l'année. Donc, l'agriculteur peut planifier sa production en fonction des ventes. Et ensuite, c'est également un revenu certain qui rentre. Et pour le consommateur, il a donc des paniers réguliers et il est sûr d'où ça vient, il est sûr de la qualité. Mais également, il y a un système d'entente ou une période où, par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup de courgettes, je ne sais pas quoi en faire. Ben, je peux en donner au consommateur que je sais qu'il viendra chaque semaine prendre son panier. Ben, il peut bénéficier aussi de légumes que je donnerai aux poules, par exemple. Ça peut être valorisé.
On dirait souvent, quand on parle d'agriculture, qu'il y a quand même deux logiques. Hein. L'agriculture, je dirais, plus bio, de qualité, plus paysanne, avec des petites parcelles. Je ne parle pas que dans l'Hérault, je parle de façon générale. Et puis, une agriculture industrielle, productiviste, et je ne parle pas que des légumes, hein, je parle aussi de l'élevage, etc. Plus aidée, peut-être, par les pouvoirs publics que l'agriculture dont vous faites partie. Est-ce que les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer sur l'incitation des consommateurs à acheter bio, mais aussi des agriculteurs à quitter quelque part le conventionnel ?
Moi, je pense qu'ils ont un pouvoir sur toutes les cantines qu'ils maîtrisent, donc toutes les cantines publiques, les cantines de lycée, les cantines de maisons de retraite, toutes ces cantines-là, si elles se retournaient vers du bio, et si les communes ou les collectivités avaient même leur propre exploitation, qui produisent leurs légumes sur des modèles viables et durables, c'est ça qui est important, ça inciterait aussi toute la population à avoir un regard là-dessus et avoir le positif de ces systèmes-là. On est arrivé à une agriculture industrielle dans l'après-guerre où il fallait nourrir la France. Donc on a développé toute la mécanisation, tous ces systèmes-là qui étaient faits pour répondre à un problème de nourrir la population. Et ça a répondu au problème, donc on y est arrivé. Sauf qu'aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, on a le revers de la médaille. On a des sols pauvres, on a des sols épuisés, des problèmes de rendement, des problèmes de qualité. Donc aujourd'hui, le nouveau défi, c'est de rechanger l'agriculture et de répondre aux nouveaux problèmes qui se posent aujourd'hui de santé et aux problèmes de changement climatique, de s'adapter au manque d'eau, au climat. C'est un problème plus grand que lié seulement à l'agriculture. C'est un problème sociétal et au niveau de l'agriculture, on le ressent, mais c'est beaucoup plus global.
3 ans, quel est un rêve, des objectifs, des projets pour les années qui viennent ?
Aujourd'hui, en pleine saison, on est au mois de juillet, mon rêve c'est d'avoir du temps. mais plus concrètement, c'est d'arriver à perfectionner techniquement l'exploitation pour gagner du temps sur la production. Également sur la commercialisation, comme vous disiez, arriver à un système d'AMAP, c'est quelque chose qui me permettrait de gagner du temps et que le système soit plus durable socialement, donc à mon échelle. Après, économiquement, ce serait d'en vivre aussi, parce que les premières années, j'ai eu beaucoup d'investissements, donc maintenant, j'espère que ça ira mieux. Et au niveau de l'environnement, j'aimerais mettre en place, m'améliorer, c'est-à-dire avoir un système qui puisse résister au manque d'eau, qui puisse résister à une grêle, que je puisse faire face à tous les aléas et continuer à produire.
Ah ben bon, de beaux projets. Merci Chloé.
Merci à vous.